Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette journée d'accélération dans le cadre du PEPR, projet national, national de recherche TENIS. Vous êtes ici, je suis vice-barateur, je suis directeur du lieu dans lequel vous vous trouvez, qui s'appelle la scène de recherche ENS Paris-Saclay, qui va bientôt devenir scène de recherche théâtre de l'Université Paris-Saclay. Je vais vous dire juste quelques mots avant de passer la parole à mes camarades. La scène de recherche, c'est un théâtre, parce que c'est un théâtre physiquement, il y a des gradins, il y a une scène, mais il s'y passe aussi un certain nombre d'autres choses qui expliquent pourquoi on s'est retrouvé avec Volnifage à piloter TENIS donc, sur la mission Toucher les publics. La scène de recherche, quand elle a été créée il y a 6 ans, et quand elle a été lancée au Centre Pompidou en 2019 par le président de l'ENS Paris-Saclay, Pierre-Paul Zaliot, avec Sylvie Retailleau, qui à l'époque était présidente de l'Université Paris-Saclay. C'était dans l'idée, au moment du déménagement de l'ENS de Cachan à Saclay, sur le plateau, de créer un lieu culturel, bien évidemment neuf, pour le plateau de Saclay, dans le cadre d'un nouveau projet urbain, d'un nouveau projet universitaire, l'idée de faire campus. Et l'idée de Pierre-Paul Zaliot à ce moment-là, qu'on a continué bien entendu pendant les dernières années, était de 3 ordres. En fait, il y a 3 missions qui sont conduites par la scène de recherche avec son équipe. La première, c'est ce qu'on appelle la recherche-création, la recherche et la création, sous la forme de résidence d'équipes artistiques, plutôt en art vivant, mais il nous arrive aussi d'avoir des équipes parfois en art visuel. Mais principalement, nous avons des équipes artistiques, des compagnies théâtrales en fait, hein, des compagnies de danse, des compagnies aussi de cirque parfois, tout ce qu'on appelle les arts associés, hein, comme on dit à la DRAC, des compositrices aussi, et ils et elles viennent à la scène de recherche pour chercher, pour avoir des temps de travail qui soient pas forcément complètement liés à la production théâtrale et à ses contraintes, mais aussi, et c'est peut-être ce qui explique la présence de la scène de recherche dans un campus, pouvoir être en rapport avec les labos, avec les, évidemment tous les scientifiques qui sont tout autour. Et donc de ce point de vue-là, il y a une mission art-science éminente de la scène de recherche avec ce qu'on appelle des croisements, des dialogues qui sont plus ou moins approfondis entre équipe artistique et équipe scientifique. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est ce qu'on appelle une mission de formation. Vous voyez bien donc, que je reprends en fait la grammaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui est tout à fait original, hein, pour un lieu d'art vivant. Cette mission de formation, elle se subdivise elle-même en deux catégories, si je puis dire. D'abord, l'année de recherche en recherche-création, qui est un master, une année graduée, qui est portée par la scène de recherche, qui là aussi est une singularité très très forte. Et cette année qu'on appelle l'ARC, entre nous, l'année de recherche en recherche-création, fait collaborer pendant un semestre, un gros semestre, des étudiants qui ont un parcours artistique d'une part et d'autre part des étudiants et étudiantes qui ont un parcours scientifique avec une approche collaborative là aussi et surtout qui est très très originale parce que bien entendu ils viennent de mondes qui sont a priori peu poreux les uns aux autres. D'autre part, toujours dans cette question de la formation, on propose un certain nombre d'ateliers, donc la mission 2AC comme on dit, l'éducation artistique et culturelle plus classique pour un théâtre, à la fois à destination des primaires, des collèges, des lycées, mais aussi des étudiants, avec parfois, pas tout le temps, une dimension art et science à cet égard. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que c'est extrêmement vaste. Pour vous dire, donner un exemple, on conduit par exemple un très très volumineux projet d'éducation artistique et culturelle avec Victor Timonier, qui est à la fois enseignant-chercheur à l'Université d'Évry en études théâtrales, et aussi metteur en scène, et on fait ça avec des laboratoires de sciences du climat. Plateau de Saclay et avec des collèges et des lycées. Et enfin, la dernière mission, la plus évidente pour un théâtre, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Donc évidemment, c'est la saison artistique et culturelle de septembre à juin, pluridisciplinaire, éminemment, avec un fil rouge à chaque fois, qui est donc la question de ces rapports entre art et science. Et c'est, ça ne résume pas tout ce qu'on fait. On a des formes parfois très expérimentales, parfois moins, mais dans l'ensemble, ce qui se passe avec cette diffusion, cette saison, et avec les deux autres missions surnommées, c'est d'arriver à créer une vie commune entre artistes et chercheurs sur le plateau de Saclay, en travaillant avec les publics. Et on en vient évidemment petit à petit à nos moutons, qui explique pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec Thémis, c'est évidemment que dans un territoire que vous avez pu découvrir, embrumé en plus, c'est encore meilleur, où les gens me disent « mais personne ne vit ici », alors qu'on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans les alentours, vous comprenez bien que la mission de territoire, la mission de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle d'ailleurs, se pose éminemment à la scène de recherche. Et c'est ce qui nous a conduit entrer en fait avec le CNRS donc dans le cadre de ce projet de recherche. On est donc à l'intersection de deux mondes, l'enseignement supérieur, la recherche et le monde artistique, mais aussi avec des missions en fait, de théâtre populaire, en réalité, sur le plateau de Saclay, alors qu'il n'est même pas terminé. Je vous laisse imaginer nos ambitions. Et sur cette bonne parole, je passe à, justement la parole à
Olivier.
Tiens, un micro.
Merci Ulysse. J'ai pour ma part la mission de vous présenter un peu le cadre plus général dans lequel s'insère cette journée qui ne finit pas d'être pas commencée, mais qui va finir par arriver, c'est-à-dire le cadre du PEPR ICAR. Alors certains connaissent déjà le PEPR ICAR, ça va peut-être valoir le coup même que j'en dise un mot de sa structuration, ne serait-ce que pour que vous puissiez candidater à des appels à projets, venir à des journées d'études, demander de l'argent, de manière générale. J'en ai assez d'argent. Voilà. Donc, ICAR. Non, ICAR, il y a ICC. Donc, c'est Industrie culturelle et créative. Et donc, avant que je rentre dans ICAR, pardon, je commence par cette slide-là, qui vous propose une sorte de prominoscope des personnes impliquées dans la coordination, dans la direction des programmes qui sont à l'origine de cette journée. Donc sur votre gauche, vous avez les coordinateurs, coordinatrices de TEMIS. TEMIS, donc toucher les publics, un des projets d'ICAR. Ulysse, Sophia et moi-même. Et à droite, vous avez les coordinateurs et coordinatrices du secteur théâtre, donc Florence, Rémi et Jean, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous en pensée. Donc, le PEPR. PEPR, ça veut dire projet d'équipement prioritaire de recherche. Donc, c'est quelque chose qui est fabriqué plutôt pour les industries lourdes, pour ordinateurs quantiques, etc. Et donc, il y a l'idée. Une idée incroyable de Sol Lexer et de David Curvelin qui est qu'on pourrait faire ça en fait pour la culture. Ce serait formidable. Et donc le PEPR ICAR a été le premier PEPR à exister dans les sciences humaines et sociales. Et ça, c'est pas absolument anodin et ça nous oblige d'une certaine manière. Alors, le PEPR, c'est un de... Bon, je passe assez vite, hein, donc c'est France 2030, stratégie d'accélération, des milliards, etc. Et donc, on a un petit bout pour nous, pour essayer de fabriquer une forme de rencontre, c'est là, vous avez l'ensemble des missions, de fabriquer des rencontres entre le monde de la recherche et le monde, les mondes de la culture, de manière générale. Avec l'idée que les industries culturelles, l'industrie culturelle, je l'emploie dans une acception extrêmement large, hein, c'est-à-dire que ça va de l'artiste d'entrepreneur jusqu'à qui fait des interventions ponctuelles et qui vivote, jusqu'à la Warner, vous voyez, donc c'est quand même assez vaste, mais il y a l'idée qu'on peut travailler ensemble pour proposer des formes de réflexivité, des formes de transfert de connaissances, l'utilisation des terrains, des mondes culturels pour la recherche. Donc, cette rencontre-là entre ces deux mondes très hétérogènes qui se parlent peu en réalité de la recherche et des industries culturelles, ICAR tente de fabriquer des ponts. Alors, pour ce faire, Sol Lexer a inventé un terme qui s'appelle le SAPIC. Ça pique un peu. Le SAPIC, c'est une inspiration du SAPS dans le monde de l'enseignement supérieur. Il y avait science avec et pour la société. Donc là, on a science avec et pour les industries culturelles et créatives. Et donc tout l'enjeu, hein, c'est d'essayer de fabriquer des croisements avec et pour les industries culturelles et créatives. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des chercheurs dans la salle et qu'il n'y aura pas que des chercheurs et chercheuses dans les tables rondes. La structuration est à la fois, alors ça oui, donc vous avez une sorte de carte d'identité de l'ensemble, je passe assez vite, ça dure 6 ans, il y a 25 millions, ça fait beaucoup et en même temps pas beaucoup, parce que c'est beaucoup d'argent réparti en beaucoup d'acteurs, donc à la fin vous saupoudrez l'ensemble, et puis voilà, donc faut quand même être parcimonieux dans les dépenses. Bien. Structuration, ça c'est important, parce que c'est pas si simple de manière générale. Donc ICA est structuré en deux grands pôles qui se rencontrent dans la journée d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'insiste. Donc le premier grand pôle, c'est ce qu'on appelle l'ICAR Lab. C'est un ensemble c'est une structuration des formes organisationnelles par secteur de d'ICC. Et donc vous avez là un certain nombre de secteurs qui sont mentionnés, ça va des musées, au spectacle vivant, en passant par l'édition, design, architecture, etc. Et donc chaque secteur est structuré, ici nous avons des représentants du secteur théâtre, qui est structuré, organise des journées, finance tout un tas d'actions, etc. À côté de ça, vous avez une structuration thématique, et donc vous avez 6 projets thématiques, dont le projet Thémis, mais je mentionne les autres pour que vous sachiez que ça existe, parce que les projets thématiques financent des choses, organisent des journées, fabriquent des réseaux de manière similaire au secteur. Et donc vous avez Harmony, le premier, il faut que je connaisse par cœur, c'est pas marqué, ah, si c'est marqué sur la droite. Donc Harmony, qui s'intéresse à la question de la création à l'heure du numérique et de l'IA, qui est vraiment centré sur la création, qu'est-ce que ça fait cette année. Toucher les publics, Thémis, donc on s'intéresse à. Alors j'ai une petite slide, je crois, juste après. Non, je ne sais pas. Si elle est plus loin. J'en dirai un mot après. Eupraxie sur les crises, Dédale sur les alternatives culturelles, Styx et Comet sur le métavers, sur les métavers et les mondes métaversiques. Juste un mot, donc qu'est-ce qu'on finance? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on finance des contrats doctoraux, des contrats postdoctoraux, on finance des journées d'accélération. Si vous avez très envie d'organiser une journée d'accélération sur une thématique, n'hésitez pas à contacter les projets ciblés, on les appelle comme ça, ou les secteurs, vous serez bien reçus. Inscrivez-vous sur Ariane, fil d'Ariane, donc c'est le, on a toujours dit ça, c'est le mythique des ICC, donc c'est pour vous, c'est une sorte de points de rencontre entre des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui s'aiment, en fait. Ils ne savent pas qu'ils s'aiment. Donc, aller sur Ariane, c'est un moyen de fabriquer du réseau. Un mot sur Thémis. Thémis, toucher les publics au sens le plus large du terme. Il s'en a déjà dit beaucoup, et j'abonde. Et donc, on travaille la question de la démocratisation culturelle, de la démocratie culturelle, des droits culturels. On essaye de se poser la question de ce que les transformations contemporaines liées au territoire, liées aux crises économiques, liées aux transformations de la consommation culturelle, liées aux médias qui changent, liées à l'IA, font au public, et comment est-ce qu'on peut travailler à plus de justice sociale. C'est pour ça que ça s'appelle Thémis, bien sûr. C'est parce que c'est la thèse de la justice. Donc on n'allait pas. Voilà. Bien, je vais vite. Donc, pour conclure, je vous invite, parce que j'ai déjà tout dit, pour conclure, ICAR, c'est vraiment une grosse machine, mais qui vous est ouverte à toutes et tous. N'ayez pas peur, comme disait l'autre. N'hésitez pas à aller sur le site internet, n'hésitez pas à vous inscrire sur Ariane, n'hésitez pas à proposer des projets spontanément. Il y a des appels à projets 2 fois par an. Si c'est intéressant ce que vous proposez, il y a moyen qu'on arrive à s'entendre. Voilà. Je m'arrête là, je te laisse la parole, Rémi.
Oui, merci Volny. Alors je voulais présenter le secteur théâtre que je représente avec Florence. Donc je me présente, Rémi Onfard, je suis directeur de recherche à l'INREA, je suis chercheur en informatique théâtrale, donc je m'intéresse de très près aux différentes façons dont l'informatique et le numérique peuvent contribuer à la création, à la diffusion du théâtre, et j'anime le secteur théâtre d'ICAR Lab avec Florence Marc, qui est professeur de théâtre à l'Université de Montpellier, et avec Jean Varela, qui est comédien, directeur de théâtre, et qui a animé le Printemps des comédiens à Montpellier pendant plus de 15 ans, je crois. Notre rôle dans le projet Icarlab et dans le secteur théâtre, c'est d'être des facilitateurs. Nous organisons des journées pour que les chercheurs en SHS, les chercheurs en informatique, qui ne se rencontrent pas habituellement, puissent faire connaissance et puis rencontrer les artistes et les professionnels du théâtre. Le but, c'est de susciter des débats, ce que nous faisons aujourd'hui en organisant des tables rondes, des rencontres et des projets communs. La première journée que nous avons organisée en février, cette année, elle était consacrée à se poser la question si le théâtre est une industrie créative et culturelle. La réponse était mitigée, ça n'est pas forcément comme ça que le secteur se représente. Certains ont pu dire que ça n'était pas une industrie culturelle, mais un artisanat d'art. Mais c'est aussi une industrie, dans un sens peut-être plus ancien, d'une communauté de personnes, de métiers divers qui travaillent ensemble à créer un service qui est le spectacle. En tout cas, ça n'est pas une industrie de masse, et donc son rapport à la recherche est différent. Le théâtre, souvent, se vit lui-même comme un laboratoire de recherche. Il est son propre laboratoire de recherche. Et la collaboration entre chercheurs et artistes de théâtre, elle ne peut pas se faire uniquement en laboratoire, elle doit se faire aussi sur les scènes de recherche. Sur les scènes de théâtre. Donc c'est pour ça qu'on est heureux d'être accueillis pour nos deux premières journées d'accélération par des théâtres, dans des théâtres. Alors, les espaces numériques, le web en particulier, sont dominés par le texte, l'image, le son, et le théâtre n'y trouve pas naturellement sa place. C'était une observation qu'avait fait Jean-François Perret au cours d'une résidence à l'Université de Grenoble en 2020. Il se demandait pourquoi le théâtre sur le web, ça n'intéresse personne. Est-ce que c'est une question de prise de vue? Est-ce qu'il y a un a priori comme quoi le théâtre devient ennuyeux sur le web? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer pour y remédier un théâtre numérique populaire? Donc il nous avait sorti cette expression un petit peu facétieuse, et cette journée aujourd'hui est destinée à prolonger ce questionnement. Par rapport à d'autres secteurs artistiques et culturels, le théâtre a un rapport au numérique qui est très différent. Il n'y a pas eu dans le théâtre de révolution numérique, il n'y a pas eu de transformation numérique comme ça a été le cas pour la photographie, la musique ou le cinéma. Mais il y a des perspectives nouvelles et assez fortes qui poussent un mouvement, d'une part, du numérique vers le théâtre. Je crois que... Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Et puis un mouvement du théâtre vers le numérique, dont on voudrait parler aujourd'hui. Alors, le théâtre et le numérique, c'est évidemment un sujet qui va être important pour notre secteur. On va avoir d'autres occasions d'en parler. On aura une prochaine journée, l'année prochaine, en octobre 2026, à l'occasion des journées d'informatique théâtrale à Paris. On aura une journée consacrée aux résidences d'artistes en laboratoire et de chercheurs en institutions culturelles en novembre, à la Chartreuse de l'Est-les-Avignon. Et puis on continuera à avoir des journées sur des thèmes qui touchent le numérique. Mais avant de se poser la question du comment marier théâtre et numérique, on a voulu se poser la question du pourquoi. Et c'est là où on s'est rapproché de Thémis en se disant une des raisons de rapprocher le théâtre numérique, ça peut être de toucher les publics, à la fois au sens d'accessibilité, d'atteindre les publics, et puis à la fois de les émouvoir. Voilà, donc toucher les publics, c'est une expression qui a été utilisée par Racine dans la préface à Bérénice. C'est la principale règle du théâtre, c'est de plaire et de toucher. Et donc on s'est dit, peut-être c'était important de se placer dans cette perspective, un théâtre numérique qui doit plaire et qui doit toucher. Alors, je voulais lever une ambiguïté sur le terme repopulariser, parce qu'il ne s'agit pas de repopulariser une marque ancienne qui n'enlève plus les faveurs du public, mais c'est plutôt un mouvement perpétuel du théâtre de se repopulariser à chaque génération, de se transformer. Et c'est une observation qui a été souvent faite par les artistes de théâtre, que les formules du passé, au bout d'un moment, peuvent s'user, et que pour plaire et toucher, il faut renouveler le vocabulaire du théâtre.
Chaque génération invente son théâtre populaire, et la question qu'on peut se poser, c'est quel théâtre pouvons-nous inventer à l'âge du numérique, et peut-être aussi quel théâtre vont inventer les futures générations des digital natives pour les âges qui vont suivre. Alors, il faut aussi nous interroger sur le chemin qui reste à parcourir. Aujourd'hui, le théâtre numérique n'est pas populaire, il n'est pas majoritaire, c'est une petite niche. Voilà. Alors, ça, UNESCO l'avait observé, tout théâtre populaire a commencé par être impopulaire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il commence par se développer tant sur des scènes de recherche, dans des laboratoires, dans des expérimentations, que la recherche peut avoir son rôle à jouer. Alors, on a prévu cette journée en trois temps. Il y a une première. Non, ça, je te laisse la parole avant de parler de la journée. Voilà, donc je m'arrête là pour que tu nous parles. Florence, que tu complètes mon propos.
Merci beaucoup, Rémi. Vanny, peut-être je te redonne le micro pour que tu te présentes.
Merci, Florence, c'est pas vraiment utile. Mais, enfin, moi, je suis maître de conférence en épistémologie, histoire, sociologie des sciences, en premier lieu. Puis je travaille sur la culture maintenant depuis un moment. Et voilà, je. je dirige le diplôme de l'ARC dont parlait Ulysse, et je suis coordinateur académique de la scène de recherche, et je dirige maintenant le projet Thémis.
Merci. Donc moi je suis Florence Marc, et je suis professeure de théâtre britannique des 16e et 17e siècles, et notamment shakespearienne. Et je précise ça parce que un de mes objets de recherche, c'est d'examiner comment Shakespeare a été un modèle de théâtre populaire en France au XXe siècle. Donc je travaille beaucoup sur les archives d'hommes de théâtre du XXe siècle et pour voir comment Shakespeare a véritablement informé à tous les sens du terme notre histoire en France. Ça peut paraître surprenant qu'on se soit tourné vers un auteur britannique pour construire notre histoire du théâtre populaire française. Et donc, quand je suis venue ici à la scène de recherche pour le lancement du projet Thémis toucher les publics en septembre 2024, nous avons été invités à assister à un fragment du spectacle qui allait être présenté le soir même. Le théâtre était plein. Il y avait rassemblé là des étudiants, des chercheurs, des habitants du quartier, beaucoup, des artistes. Et la séance s'est prolongée par un échange avec les artistes, puis par ce que Ulysse et son équipe appellent un festin dans le théâtre. Il s'agissait de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans ce théâtre. Il s'agissait de donner envie d'y revenir. Il s'agissait de piquer la curiosité des spectateurs et de leur donner envie de voir le spectacle en entier. Il s'agissait aussi de partager tout à la fois un moment sensible, un moment de questionnement, et un moment convivial, un moment rare. Un moment rare qui était dû à l'engagement d'Ulysse Baratin et de son équipe pour intégrer la scène de recherche à la vie du quartier, en allant sans relâche à la rencontre des associations et des habitants. Bel exemple de théâtre populaire à l'échelle du territoire, me suis-je dit. Un exemple de théâtre populaire qui mise sur la curiosité des spectateurs comme moteur de leur engagement dans le spectacle. Et c'est là qu'est née l'idée de ce partenariat entre le secteur théâtre de l'ICAR Lab, la scène de recherche et le projet de Thémis, autour du théâtre populaire et du numérique. Du numérique comme laboratoire d'un autre théâtre populaire. Alors, toucher plus de public avec le numérique, pour adapter le sous-titre du projet Thémis. Toucher, je voudrais revenir sur le sous-titre de ce projet, toucher au sens de rendre le théâtre accessible, bien sûr. Le numérique a permis de maintenir le lien avec les publics lorsque la situation sanitaire ne permettait pas la rencontre théâtrale durant la pandémie de Covid-19. Et on pense là à toutes les formes de théâtre dématérialisées jusqu'au théâtre Zoom qui a émergé presque en même temps que l'outil de visioconférence. Il a permis non seulement de maintenir ce lien, mais de le développer. Beaucoup de spectateurs se sont exprimés à ce moment-là sur les réseaux sociaux pour demander à ce que persiste, au-delà de la crise sanitaire, l'accès numérique au théâtre dont ils étaient éloignés, soit parce qu'ils étaient en situation de handicap, soit parce qu'ils habitaient loin d'une ville et d'un théâtre. Le numérique permettrait, entre autres, de proposer une réponse au problème de l'accessibilité en mettant en œuvre une sorte de décentralisation à grande échelle et en attirant de nouveaux publics vers le théâtre. Toucher aussi au sens de s'adresser à toutes et tous, quels que soient les horizons, d'inclure le plus grand nombre dans la rencontre théâtrale. Toucher émotionnellement, toucher intellectuellement, toucher humainement. Le titre du projet Thémis est intéressant en ce qu'il déplace la prépondérance du voir que l'on a dans les désignations théâtre ou spectacle, de l'entendre que l'on a dans auditeur, pour mettre en exergue le toucher dans ce lieu, dans ce lien concret, multiforme qui se tisse avec le public durant une représentation. Et comment toucher avec un médium qui paradoxalement joue de toutes les formes de dématérialisation ? La réalité augmentée, la réalité virtuelle, le métaverse, le web. Et si les champions du théâtre populaire, tels que Jean Villard, parlent de spectateurs engagés ou de spectateurs participants par l'imagination, par le sens critique, quel mode d'engagement spectatoriel les technologies numériques appellent-elles ? Quel type de spectateurs participants redéfinissent-elles ? Du spectateur joueur, tel que le conçoit Jean Boileau, dans son théâtre prêt à jouer, au spectateur immersant, pour reprendre une catégorie théorisée par Isabella Pluta dans son ouvrage « Quel rôle pour les spectateurs à l'ère numérique ?» Et je les remercie tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Quel impact du numérique sur le potentiel transformatif du théâtre populaire ainsi revisité ? Autant de questions donc que nous nous efforcerons d'aborder aujourd'hui avec nos invités, que je remercie en notre nom à tous, chaleureusement, d'avoir accepté de participer à nos deux tables rondes. Et je repasse la parole à Rémi qui va présenter ces tables rondes.
Oui, alors, tu viens d'introduire déjà les thématiques, donc je vais aller vite. Donc la première table ronde, enfin, il y a trois temps dans la journée, la première table ronde ce matin, une rencontre avec les artistes du groupe Scalpel cet après-midi, et puis une deuxième table ronde cet après-midi. Donc la première table ronde, elle va commencer là, dans quelques minutes. Donc je laisserai Ulysse faire la présentation des participants. Le thème développé, c'est celui de l'accessibilité par le numérique. Et je remercie les participants qui représentent nos différentes communautés ce matin. Il y aura en début d'après-midi une rencontre avec Romain Nicolas et le groupe Scalpel autour du spectacle Que la machine vive en moi, qui a été joué hier soir et à nouveau ce soir à 20h. Et puis il y aura une deuxième table ronde qui suivra sur les modes d'engagement du spectateur et que j'animerai avec Franck Bochard, Jean Boileau, Félix Pagès, Isabella Punta, Marius Préda et Julie Valero. Nous aurons besoin de plus de sièges cet après-midi. Voilà, nous sommes un peu en retard, alors je te passe la parole, Lise, pour passer à la première table ronde.